Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Une voix, un accent, c'est la plus espagnole des chanteuses françaises. Elle vient nous voir avec son deuxième roman. Olivia Ruiz est à la table du dimanche. Amoureuse des grandes tablées, Perla Servan-Schreiber va nous rejoindre avec 30 recettes pour enchanter notre été. Et puis, clin d'œil tient aux origines d'Olivia. Emmanuel Rubin nous racontera Dali côté fourchette. On va en apprendre de belles, vous allez entendre. Et en cuisine, arrivée tout droit de Béziers, Pierre Auger est avec nous jusqu'à midi et demi. Bonjour Olivia Ruiz.
Et bonjour.
Merci d'être là.
Mais avec plaisir, vous savez bien.
Mais je sais bien, mais vraiment, ça fait toujours plaisir de vous recevoir et de passer un moment à table avec vous parce que je sais que c'est très important pour vous le plaisir de la table et de la cuisine.
Ouais. C'est la vie, tout simplement, c'est le partage. Après voilà, ce que j'aime dans le fait de régaler mes papis, c'est avant tout le partage quand même. Je dois vous avouer que si je suis seule, je ne suis pas capable de cuisiner quoi que ce soit pour ma seule petite personne.
Ou un petit œuf à la coque quand même.
Oui, voilà, mais ça, c'est pas cuisiner, ça.
C'est grignoter.
Voilà.
Quand on entend votre voix, on pense tout de suite à votre tube, hein, la fameuse chocolat. C'est un bel hymne à la gourmandise. Vous êtes gourmande, hein, pour de vrai.
Oui, absolument. Très épicurienne. Puis c'est vrai que c'est... ça fait partie des exutoires aussi, le fait de cuisiner, ça vide la tête vachement, comme
méditation,
être en concert,
hein,
absolument.
Petite question rituelle, tiens, que je pose à tous mes invités à cette heure-ci le dimanche. Qu'est-ce que vous faites habituellement sur les coups de 11h le dimanche là? C'est le week-end de la Pentecôte. Habituellement, vous faites quoi?
Alors, habituellement, on est plutôt côté parc avec mon petit footballeur, voilà.
Votre fils?
Ouais, ou quand on a un peu plus de temps, le petit brunch. Moi, j'aime les grandes tablées, les repas qui durent, où on goûte plein de choses différentes.
Du salé, du sucré.
Voilà, et c'est vrai que pour ça, autant ma chère Occitanie me manque chaque minute, chaque seconde, autant c'est vrai qu'on mange bien quand même dans cette capitale qui m'a adoptée.
C'est vrai, hein. Alors Anvelin qui vient d'Occitanie, et je ne vous le présente
oui,
pas.
Oui, c'est un cadeau ça
et
aussi.
Oui, nos auditeurs le connaissent bien aussi, c'est Pierre Auger, chef de la maison de Petit Pierre à Béziers. Bonjour Pierre Auger.
Et bonjour à tous les deux.
Merci d'être là. Alors les auditeurs vous connaissent, je le dis, parce qu'on vous a découvert avec Top Chef, bien entendu.
Oui.
La première année de Top Chef, vous étiez en finale et vous êtes revenu en 2014. Et là, vous avez remporté Top Chef et aujourd'hui, vous régalez... Les habitants de Béziers, comment on les appelle, tiens, les habitants de Béziers?
Les Biterrois.
Les Biterrois, voilà, c'est ça, absolument. Alors, je ne vous présente pas Olivia Ruiz.
J'adore Olivia, j'adore, je suis très content d'avoir joué. C'est vrai qu'on était à côté, on ne se connaît pas.
Mais oui, on ne s'était jamais rencontrés, ouais. C'est pour ça que je dis que c'est un cadeau
oui,
que vous parce nous
que
faites, Laurent.
En préparant l'émission, je me rendais compte d'une chose, vous avez grandi sous le même climat, pratiquement, à une heure de temps, hein. Vous Béziers, vous Carcassonne.
Mais pas du tout une heure, 35 minutes, par l'arrière-pays. Ben ouais.
35 minutes par l'arrière-pays, ouais. Ça c'est une info, tiens. Ouais. Parce que pourquoi moi je mettais une heure alors je prends pas les bonnes routes alors.
Non, je pense que vous passez par Narbonne, ce n'est pas utile, Laurent. Par Pouzol, où il y a de très bons vins d'ailleurs, oui. En passant, vous faites les caves, voilà, vous prenez plutôt la départementale.
Ça j'aime bien, voilà. Ça, c'est le petit point circulation du dimanche matin, c'est très important. Pierre, vous cuisinez à la maison, vous avez racheté le restaurant de votre père en fait, hein, c'est ça?
Oui, c'est le restaurant familial qu'on a racheté avec ma femme en 2010.
On n'est pas loin de l'Espagne. Comment ça se traduit concrètement dans votre cuisine? Tiens, un petit aperçu de ce qu'on va manger aujourd'hui.
J'aime bien garder le côté ancien, le côté grammaire, qui est pour moi hyper important. Et donc, j'ai une cuisine qui est très méditerranéenne, qui est typée méditerranéenne. Et après, j'essaie de rajouter quelques petites notes qui me font plaisir. En fait, aujourd'hui, je traduis ma cuisine surtout de l'envie, prendre du plaisir.
Concrètement, parce que là, on les a devant nos yeux. Pour notre premier grignotage, qu'est-ce que vous allez nous faire?
Donc là, premier grignotage, c'est plutôt gambas qui sont juste à peine revenus, concassés légèrement avec une petite brunoise de courgettes, céleri. Et dessus, je verse un petit crémeux de courgettes à la tagette. Tagette, c'est une herbe aromatique qui a goût un petit peu menthe, un peu agrume.
Eh bien, on va la goûter dans un instant, ça ce sera pour l'entrée. Et pour le plat, alors, qu'est-ce qu'on aura?
Et pour le plat, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une rouille de sèche.
Oh,
ouais. Conquise.
Mais bien sûr.
Donc, je vais la tailler, bien sûr, plus petite, comme une tuelle, un peu donc plus petite, parce que le temps aussi est imparti. Donc, je suis obligé d'accélérer un petit peu. Je vais ajouter un petit jus de persil, un jus de rôti, des oignons qui sont revenus avec de l'huile d'olive. Et on cuit avec de la. Normalement, c'est du poulpe. Là, je le fais à la sèche, moi, avec des tomates et qui sont confites tout doucement comme ça. pendant très longtemps, environ 2 heures. Ah. Donc, c'est pour ça que je la taille beaucoup plus petite, qu'en peu de temps, on puisse la déguster. Quand.
Ça va compoter, c'est ça l'histoire. Ouais.
Exactement.
Oh, ça sent bon. Alors, vos racines espagnoles sont au centre de ce deuxième roman. C'est la suite de La commode au tiroir de couleurs, on peut
un
dire.
Spin-off.
C'est un spin-off, voilà. Mm-hmm. Oui, enfin oui, c'est oui. Quand je dis la suite, c'est plutôt même oui, un spin-off.
Oui,
c'est
chaque
ça.
Livre peut se lire indépendamment.
Exactement.
On n'a pas besoin de connaître la vie de Rita pour connaître.
Alors, j'ai lu les deux. Écoute la pluie tombée, c'est le deuxième qui vient de paraître chez Lattès, mm-hmm. justement. Vous racontez l'histoire de Carmen, qui est la petite sœur de Rita, qui était l'héroïne du premier roman.
Absolument.
Premier roman, plus de 500 000 lecteurs.
Oui,
qu'est-ce que ça fait un succès pareil ?
C'est déroutant. C'est déroutant parce que c'est vrai que finalement, j'espérais rien. J'étais contente d'avoir pu aboutir un hommage à mes grands-parents, aux femmes, aux migrants, à toutes sortes de gens qui réveillent ma fascination. Et en même temps, voilà. C'est vrai que je m'attendais à rien parce que c'est comme ça qu'on se prépare à chaque fois qu'on sort un album ou un livre. Comme on sait qu'on remet toujours le titre en jeu, il vaut mieux partir en se disant que la première des réussites est d'avoir abouti l'objet.
Ça vous échappe pour que nous, on puisse se l'approprier.
Et voilà.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous revoilà en cuisine avec Olivia Ruiz et le chef Pierre Auger au fourneau. Alors, nous sommes vraiment dans une vraie cuisine. Hein. Je
redis
à nos auditeurs, Olivia Ruiz. Mm-hmm. On n'est pas au studio Coluche comme on l'est le samedi. Si, c'est un joli plan de travail en marbre. Ça vous plaît d'être comme ça un petit peu en dehors des studios, en dehors de la promotion classique ?
Bah, ça a quand même un charme fou d'être là. Et on est hyper privilégiés. On peut voir cuisiner Pierre. Ça, c'est le rêve de tous les gens qui aiment manger. Hein. Moi, je me souviens d'un moment de magie chez Anne-Sophie Pic, où j'avais pris une chambre d'hôtel pour me faire l'expérience de bout en bout. Et j'ai passé la soirée sur le petit balcon de la chambre qui donnait en plein sur les cuisines. Mais j'étais au spectacle.
C'est un
quoi.
Théâtre. Hein.
Voilà, on entendait une mouche voler, de temps en temps un petit rire discret. Et c'est très chorégraphique finalement.
Alors, Olivia Ruiz, vos racines espagnoles sont au centre de votre deuxième roman. Est-ce que ça veut dire que vous vivez à l'heure espagnole, tiens, comme
pas
les
du
repas,
tout.
Par exemple ?
Mais pas du tout. Je vis, au contraire, au rythme d'une bonne maman. C'est-à-dire que c'est 19h20 à table. Pour respecter le coucher à 20h30, rien d'espagnol du tout. Mais par contre, voilà, très... très respectueuse du rythme d'un petit gars de 6 ans.
Eh oui, on se cale sur le rythme de nos enfants quand ils ont cet âge-là. Bien sûr. Mais ça grandit vite, vous allez voir.
Oh non.
Mais oui, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas envie qu'ils grandissent non plus.
Je ne veux pas voir, j'en ai qu'un.
Écoute la pluie tomber. Alors, ça, c'est le titre de votre deuxième roman qui poursuit la fresque familiale, on le disait, une sorte de spin-off de La commode au tiroir de couleurs. C'est pas une suite, mais on découvre un autre personnage. Donc, je le disais, Carmen, une des sœurs de Rita, héroïne de votre premier roman. Et Carmen, c'est vraiment, on le voit là en parcourant ces pages, c'est une femme libre, volontaire et autonome, comme vous en fait. Hein. Elle a beaucoup de points communs avec Olivia Ruiz, moi j'ai trouvé. Hein,
elle va trouver tard son autonomie.
Oui.
Moi, je suis partie beaucoup plus jeune de la maison. On va dire qu'elle a un côté tête brûlée qui pourrait ressembler à l'adolescente que j'ai été. Elle a un côté écorché vive qui peut être le mien quand on touche à des sujets qui sont... voilà, épidermique pour moi. Et en même temps, elle le dit, j'ai été pendant 21 ans seulement une excroissance de mes sœurs. Elles ont traversé les Pyrénées à pied pour rejoindre la France en pleine guerre d'Espagne. Carmen était la plus jeune, donc elle a grandi française. Elle pense ne pas avoir ce problème de double identité, cette fameuse chose terrible pour tous les migrants qui ne sont pas d'ici et plus de là-bas non plus. Mais c'est pas parce qu'on met les choses sous le tapis qu'elle ne décide pas d'elle-même de ressurgir et de s'imposer à un moment de la vie.
Les fameux secrets de famille, les non-dits, les choses qui ne se disent pas mais qui se ressentent aussi. Hein, mm-hmm. C'est ce que vous avez ressenti aussi du côté de votre enfance avec vos 3 grands-parents qui sont d'origine espagnole et qui vous ont très peu parlé de ces racines espagnoles.
Alors eux, ils sont même espagnols.
Ils sont espagnols, c'est ce que je voulais dire. Oui, absolument. Oui.
Oui. J'ai fini par respecter ce silence parce que je voyais bien que leurs paroles étaient était empêchée à cause de la souffrance probablement de ces, de cette migration.
Parce qu'une partie du roman se passe évidemment à l'époque du franquisme. Hein. Mm-hmm. Je regardais en préparant l'émission, ça date de 1936 à 77, le franquisme. C'est plus de 40 ans de dictature.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très spécifique à l'Espagne. Il est très rare qu'une dictature reste en place aussi longtemps. Et c'est vrai qu'on en connaît les conséquences. Donc, une population qui vivait dans une terrible misère, même si pour cette économie espagnole est en train de, voilà, de reprendre une place, c'était vraiment des disparités à un niveau terrifiant.
Il faut du temps pour sortir d'une histoire pareille. Alors, il y a évidemment ce sérieux et ce poids de l'histoire dans votre roman, mais il y a aussi de l'amour, parce que Carmen, elle va tomber amoureuse d'un matador. Hein,
Je ne sais pas si elle est amoureuse d'Antonio, le matador. On va dire que c'est...
Moi, j'ai pensé qu'elle avait un petit coup de foot, quand même.
Elle partage effectivement sa sexualité, oui, avec lui. Je ne crois pas qu'elle ait des sentiments pour Antonio. Antonio, c'est juste sa clé vers une émancipation possible. Finalement, si elle reste en Espagne, dans cette finca, dans cette espèce d'hacienda, c'est parce qu'elle est très attachée aux deux disciples d'Antonio, le matador, qui lui demande de partir avec lui. Elle s'est plus attachée, avec un lien maternel fort, aux deux jeunes apprentis toreros aux trois, d'ailleurs, qu'à Antonio. Ouais.
Et ça m'a fait penser, moi, cette histoire-là, de, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais c'est pas, voilà, on va se rendre compte qu'il a fait des choses pas forcément terribles, mm-hmm, cet Antonio, on ne peut pas tout raconter. Ça m'a fait penser à l'histoire de cette Française qui est tombée amoureuse au Mexique, Florence Cassez, vous savez, qui était tombée amoureuse d'un trafiquant
ça
au Mexique.
Et qui a pris pour lui.
Et qui a pris pour lui.
Effectivement. Ouais. Effectivement, j'avais oublié cette histoire, mais peut-être elle a fait son chemin, tiens.
C'est ça, il y a peut-être de ça. Alors, c'est l'heure de passer à table avec vous, Pierre Auger. Oh là là,
wow,
c'est beau.
Une
entrée.
Superbe.
Redites-nous ce qu'il y a dans cette entrée, parce que là, vous l'avez recouverte d'un coulis de courgettes à la tagette.
À la tagette.
Ça rime à l'oreille et ça rime en bouche hein, aussi.
Et avec
hein.
De exactement. Belles graines de courge caramélisées, là, qui ont l'air délicieuses.
Quelques petites graines de courge juste torréfiées dessus. Les gambas sont juste sautées avec une petite brunoise de courgette.
Alors, comment pourquoi moi, quand je torréfie mes graines, elles ne sont pas brillantes comme ça, là?
Où tu mets pas assez de matière grasse, ton huile d'olive.
Il met beaucoup
d'huile
d'olive.
Et après, il faut les goûter.
Ah oui, non, moi, je passe juste, tu sais, je mets un chiffon imbibé d'huile pour ne pas rajouter.
Ah non, justement, il faut mettre de la matière grasse parce qu'en plus, les graines de courge, encore plus, parce qu'elles gonflent. Elles viennent se nourrir.
C'est ça.
Et il faut toujours les saler à la fin. Que le sel dessus, c'est qui est bon, c'est ça en fait.
Et puis, c'est vrai qu'à la base, c'est pas assez gras la graine.
Tu vois, regarde, je les ai, goûtées, t'as la matière grasse qui est dessous. Et ce qui est intéressant,
elles sont brillantes, ouais.
Voilà. Et le côté salé est important.
Comme une vraie friture.
Redites-nous ce qu'il y a sous ce coulis, ce joli tartare là, Pierre Auger.
C'est un petit tartare de gambas avec brunoise de courgette, céleri.
Oh, c'est bon ça.
Et dessus, la courgette, voilà, qui vient avec cette herbe aromatique à la tagette.
C'est incroyable.
J'adore.
Ah, y a un ping-pong. C'est vrai que c'est déroutant cette tagette parce qu'il y a un petit côté, comme vous le disiez, menthe agrume. Et on ne sait plus trop où on est en fait. On a du mal à identifier l'herbe qui vient parfumer ce coulis de courgette. C'est délicieux. Hein.
C'est ce que j'aime en fait dans la cuisine qu'on propose, c'est qu'on a un traceur qui est fort, que l'on comprend. Et quand on met en bouche, c'est un peu déroutant. J'aime bien ça.
Qu'est-ce que c'est bon. Eh bien, ne bougez pas, on vient dans un instant à la table du dimanche. Emmanuel Rubin, notre gastronome du dimanche et des autres jours, se rapproche. Et puis, Perla Servan-Schreiber, vous savez, la dame qui a fondé Psychologie Magazine avec son mari, elle vient de sortir un joli livre de recettes pour l'été. Eh bien, elle sera des nôtres aussi. À tout de suite sur Europe 1. Qu'est-ce que c'est bon.
Oh, mais que j'aime mon métier.
Ah là là, c'est ça, voilà. Hein, c'est sympa, ça.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. C'est la table du dimanche d'Olivia Ruiz et en cuisine Pierre Auger, le chef du restaurant La Maison de Petit Pierre, avenue Pierre Verdier à Béziers, pour être précis. Hein, on est d'accord?
Exactement.
Dites donc, je pensais à un point commun entre vous deux, en dehors de l'Occitanie qui vous réunit. La télévision vous réunit. Vous êtes entre guillemets, médiatiquement, tous les deux nés à la télévision. La Star Academy pour vous, Olivia Ruiz.
Absolument.
Et Top Chef pour vous, Pierre Auger.
Bon, on était nés avant.
Médiatiquement.
Oui. Mais effectivement, c'est vrai.
C'est des accélérateurs de carrière, ces émissions-là, j'imagine, non ?
Oui, alors après, je ne sais pas Pierre, si Pierre sera d'accord, mais tout commence, en fait. On nous fait croire, à un moment donné, que c'est une fin, un achèvement, un aboutissement. Voilà le mot que je cherchais, de gagner Top Chef ou de...
De remporter la Starac.
Et en fait, non, c'est là que le travail commence, c'est vraiment. Vrai. Et c'est vrai que c'est...
Vous avez souvent dit que ça manquait d'accompagnement derrière l'émission. Hein. C'est vrai que quand on est jeune et qu'on se retrouve propulsé comme ça dans une arène médiatique, on a envie d'être un petit peu entouré aussi psychologiquement. Même.
Et puis c'est surtout l'après.
Oui, c'est ça.
C'est que si on n'a pas une famille qui a bien les pieds sur terre, si on n'a pas un bon ancrage et tout ça, on peut vite se retrouver... avec simplement le vide dans son petit appart et les désillusions. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je déplore.
Et ça peut être le cas pour vous, en tout cas, de se retrouver...
Mais parce que moi, je suis une bosseuse, une acharnée, que j'ai une famille géniale.
Une volontaire.
Qui est bien en place aussi.
Et vous, c'est pareil. Vous n'avez pas débarqué à la télévision comme ça, Pierre Auger. Vous étiez déjà cuisinier auparavant. C'est peut-être la différence, déjà, avec Top Chef et aussi les émissions du spectacle, parce que vous aviez déjà un métier entre les mains.
Oui, on a un métier. Et cette émission aussi a propulsé ce métier-là, a mis ce métier à lumière. Donc, c'est vrai que c'était bien, même pour tout le monde, aujourd'hui. Après, c'est exactement pareil qu'Olivia. Il faut garder les pieds sur terre. On fait qu'à manger, on fait que chanter.
Voilà.
On est tous humains. Il faut pas se prendre pour d'autres. Et ce qui fait aussi la différence, je pense, dans l'après.
Écoute, la pluie tombée, c'est le deuxième roman d'Olivia Ruiz. Évidemment, on lui souhaite le même succès qu'au premier roman. C'est paru chez Lattès. Il est question d'Espagne, bien entendu, dans ce roman. Quels souvenirs vos grands-parents vous ont-ils transmis de l'Espagne ? Même si, on le disait juste avant la pause, il y avait un côté secret, non dit. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir ? Parce que vous parlez beaucoup de ça, de cette mémoire ancestrale, de cet ADN de la mémoire qui se balade, même si on ne dit pas les choses. Moi, j'y crois beaucoup à ça aussi.
Ben, ils m'ont transmis... Je voyais... Alors, les seuls moments où l'Espagne existait chez nous, c'était d'abord dans la cuisine. Voilà, ma grand-mère bricolait, cuisinait pas follement, mais elle bricolait toujours des trucs qui... Voilà, du riz au safran avec des poivrons et des gros morceaux de porc, de côte de porc, voilà. Le truc, ben voilà, les plats... On appelait souvent ça les plats du pauvre.
Et parce qu'ils sont rustiques et en même temps nourrissants.
Ouais, et en même temps, on a tous les parfums, toutes les saveurs de la Méditerranée, sinon de l'Espagne. Donc là-dedans, c'est sûr. Notre grand-mère, par contre, était vraiment excellente cuisinière, même si elle cuisine plus. Et là, pour le coup, dans des choses très traditionnelles, le flan, j'en parle dans mes livres d'ailleurs.
Du riz au lait, du flan.
Voilà, le riz au lait bien crémeux, avec pour nous les écorces de citron ou d'orange, pas la cannelle. Voilà, toutes ces choses-là. Elle faisait une canette aux pêches, Pierre, à tomber.
Oh, c'est beau, ça c'est un bel accord.
Avec
hein.
Les pêches confites. Et elle ressemblait à Rita, à la Rita du livre, en ce sens, où elle voulait absolument montrer à travers sa cuisine qu'elle était française aussi. Et en même temps, dans sa cuisine, transpirer ses origines espagnoles.
Et oui, alors moi, ce que j'aime, et vous le dites à propos de Rita, justement, tiens, je suis page 24 dans votre roman, à propos de Rita qui cuisine et qui aime cuisiner, elle sait ce qu'il faut nous cuisiner en fonction de nos états d'âme, comment nous récupérer par la peau des papilles si l'on est fâché, et de quelle façon nourrir Cali, c'est la nièce de Carmen, pour qu'elle pousse comme une plante tropicale. C'est bien dit, ça, le pouvoir réparateur de la cuisine aussi en fonction de nos états d'âme, hein, ça soigne.
Il y a un film que j'adore, qui n'est pas très connu, mais qu'il faut que vous voyez absolument, qui s'appelle Les épices de la passion. Et c'est au Mexique, à cette époque où quand le père de famille mourait, la plus jeune des sœurs devait rester au domicile de la maman pour s'en occuper jusqu'à la fin de ses jours. Et cette jeune Tita va tomber folle amoureuse. Elle ne peut pas exprimer cet amour parce qu'elle n'a pas le droit de se marier ni de vivre cette histoire. Ce garçon, pour rester près d'elle, va épouser sa grande sœur et elle va communiquer avec lui uniquement avec la cuisine. Il y a une scène savoureuse où elle fait des cailles aux pétales de rose et elle provoque un orgasme général tout autour de la table, même à la grand-mère, la mère. Et oui, il y a ce réalisme magique, là. Et par la cuisine, comme ça, vont s'opérer des tas de choses.
Mais c'est marrant parce que là, vous parlez d'un film dans lequel il est question encore aussi de fratrie, et c'est très présent, ça, dans vos romans. La fratrie, le pouvoir de la transmission et de grandir ensemble. L'histoire de ses sœurs, là, justement, dans La commode au tiroir de couleurs, et puis dans ce deuxième roman. La fratrie, c'est important. À une époque aujourd'hui où on a parfois besoin de vivre les uns séparés des autres, même autrefois, on vivait peut-être plusieurs générations sous le même toit. Mm-hmm. Vous avez connu ça un petit peu, vous, du côté de Marseillette aussi?
On a un peu connu ça, puisqu'on vivait ensemble au café, même si on avait nos maisons respectives. Mais moi, ce qui me travaille, m'inspire, me fascine, c'est la famille comme à la fois trésor et poison. Voilà. Nous, on est très... Les Méditerranéens, on a tendance à s'auto-étouffer, quoi. Il y a le côté génial de interdit de se fâcher. Bon, je veux dire, ma mère a 7 frères et sœurs. On peut se faire les pire truc entre nous, il est interdit de se fâcher. En mémoire de la grand-mère, on ne se fâchera jamais, on s'acceptera, même si les pires choses peuvent se passer entre nous. Je trouve ça tellement beau, tellement fort. Et à la fois, c'est vrai que moi, j'étais assez contente aussi de partir vivre à Paris, oui, et d'être moins tout le temps collée les
autonomes,
les uns
indépendantes,
aux autres.
Bien voilà. Sûr. Oui, ça fait du bien, ça permet de grandir aussi.
Même si là, il commence à me manquer.
Ah bah, vous voyez, bah on va retourner les voir. Bah, il fait partie de la famille, tiens, je vais vous le présenter, les auditeurs le connaissent bien. C'est Emmanuel Rubin, que vous pouvez lire dans le Figaro. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, bonjour.
Olivia
bonjour.
Ruiz, Emmanuel Chanté. Rubin. Alors, les racines espagnoles de notre chère Olivia vous ont donné envie de nous parler d'un surréaliste qu'on adore, d'un artiste, Monsieur Dali.
Bah oui, l'Espagne, la France, l'Espagne, un certain côté fantasque, l'élan créatif. Eh bien, on va inviter, pour accompagner Olivia, un certain Salvatore Dali, mais un Salvatore Dali côté table. Vous allez voir, il a aussi procédé du côté de cette chose-là.
Il est fou, ce Lubin.
Joli accent.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à la table du dimanche. Si vous avez raté le début, abonnez-vous au podcast sur europe1.fr. Vous retrouverez les confidences d'Olivia Ruiz qui est avec nous jusqu'à midi et demi. Pierre Auger est en cuisine. C'est l'heure d'ouvrir un petit blanc.
Ah, quand même.
Ah. Avec modération, bien sûr.
Bien sûr.
Mais avec plaisir. Alors, on va ouvrir un vin du comté Tolosan de Laurent Cobé. C'est un vin qui s'appelle Domaine de l'Escudé. Et figurez-vous que Laurent Cobé, eh bien, il est sur le marché des producteurs d'ici les Moulineaux ce week-end de Pentecôte avec son vin. Donc, on va glouglouter et je vous laisse goûter, cher Olivia Ruiz. Il a une robe incroyable.
La couleur est folle.
Il a une robe jaune paille. IGP, Comté Tolosan. Voilà, c'est le moment aussi le week-end de découvrir des cavistes et des producteurs. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Écoute la pluie tomber, c'est le titre de votre deuxième roman, Olivia Ruiz. Comment vous écrivez? Je vous pose la question parce qu'il y a 15 jours, Marc Lévy était à votre place et il nous racontait qu'il a un bureau dédié, qu'il aime bien écrire dès le matin et que voilà. Et comment vous faites, vous?
Alors, j'ai pas du tout un bureau dédié, mais j'ai un grand bar, enfin grand bar, un bar.
Avec un barman.
Voilà, avec un barman qui me sort le café tous les matins, qui sort de sa petite cave. Non, j'ai une espèce de, comment on dit, un plan de travail, quoi.
Ouais, comme ici, oui.
Qui est bar plutôt, parce que voilà, parce qu'il fallait que j'ai un bar. Tant pis pour les petits espaces. Il fallait un bar et du coup je me mets là, donc je suis pas du tout assise confortablement, je suis sur un tabouret au Ikea où je suis pas terrible du tout, et quand j'ai mal au dos et que j'en ai marre, je vais à une terrasse de café. Mais effectivement, j'ai mis pour celui-là, en tout cas, comme je voulais le terminer assez vite pour repasser à la musique, bah du coup j'ai fait tout à la maison, réveil à 5h30 du matin pour écrire avant le réveil
du petit garçon.
De l'enfant, voilà. Et parce que moi, c'est vrai que j'ai un peu la bougeotte. Donc, rester assise à écrire, ça me coûte, quoi. C'est pas...
Oui, vous nourrissez la journée d'autre chose pour pouvoir avoir cette discipline le matin, quoi.
Exactement. Et comme ça, je peux me dégourdir les jambes. Dès 13-14 heures, j'ai fait mon boulot et je peux enfin bouger.
Écoute, La pluie tombée chez Lattès, c'est votre deuxième roman. On va parler musique aussi tout à l'heure parce que vous êtes en tournée. Là, vous faites une pause pour le roman, mais vous serez en tournée à partir de septembre avec Bouche cousue. On en parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est l'heure de passer à la salle à manger. Il va y avoir du mouvement. Vous qui aimez le mouvement, tiens, Olivia Ruiz. Et on va retrouver l'ami Emmanuel Rubin qui est déjà à table. Et on va vous servir, tiens, aussi ce vin blanc du comté Tolosan. Tiens, j'ai pas dit ce qu'il y avait dedans, c'est du merlot, du cabernet franc au niveau de l'assemblage, domaine de l'Escudé. Voilà. avec modération et avec plaisir. Alors oui, les racines espagnoles d'Olivia Ruiz vous ont donné envie de parler d'un artiste surréaliste qu'on adore pour sa folie, sa fantaisie, c'est Dali. Et vous allez nous faire découvrir Dali, mais côté fourchette, côté table.
Exactement. Alors nous sommes en 1973 et Dali va publier un bouquin, son premier livre de recettes. 400 exemplaires seulement, c'est du Dali, ça.
C'est limité.
Ouais, ouais. Alors, il faut savoir que Dali, ça a d'abord été surtout un expérimentateur. On le connaît en tant que peintre, mais c'est aussi un architecte, un sculpteur, un cinéaste, un homme qui a gravité du côté de la haute couture. Et lorsqu'il va aller comme ça s'approprier un peu la chose gastronomique, eh bien, il va continuer ses expérimentations. Le livre s'appelle « Les dîners de gala ».
Alors, gala, j'imagine, mais c'est un hommage à sa muse, évidemment. Sûr.
Tout est Dali. Jeu de mots, les dîners de gala, et en même temps, effectivement, il parle de son immense amour, son alter plus qu'ego, son inspiratrice, alias Gala, Elena Ivanovna Diakonova. Elle était russe. Dans les années 60, Dali et Gala organisent, ou plutôt, j'ai envie de dire, ils orchestrent à Paris souvent des dîners où le tout capital va se précipiter, parce que ce sont des dîners, effectivement, de folie, fantasques, oniriques, très portés sur l'œuvre de Cher. Et de ces agapes, eh bien, Dali va se dire, je vais écrire un ouvrage. Alors, cet ouvrage, il l'écrit véritablement, parce qu'il avait le sens de la sémantique, de la syntaxe. Il va bien évidemment l'illustrer de manière flamboyante, et puis il va le mettre en recette, avec l'aide d'ailleurs de deux grands chefs de l'époque, le chef de chez Lasserre, le chef de la Tour d'Argent.
Ah oui, quand même. Donc ça veut dire quoi ? Que l'ouvrage est complètement daliesque ?
Totalement. Alors, c'est un ouvrage, je crois que tout gastronome, et pas simplement les gastronomes, doivent l'avoir dans leur bibliothèque. Il est onirique, il balance entre le sacré, entre le païen, c'est bourré d'humour, d'érotisme, de morbide, et bien sûr de folie, mais la folie qui, pour Dali, est toujours un miroir du réel. Alors, il y a 12 chapitres, pour que vous compreniez bien, 136 recettes. Parmi ces 12 chapitres, il y en a un, ce sont les Spoutnik Astiqué d'Astico Statistique. Oh, en fait, ça réunit les compositions d'escargots et de grenouilles. Il y a aussi l'atavisme désoxyribonucléique.
Ah, et là, bien sûr.
Ça recense les préparations de légumes.
Mais oui, c'est délicieux.
Alors, quelques recettes quand même. Une tarte à la rhubarbe, à la brosse à dents et au cygne.
Ah bon ?
C'est pas mal ça, le cygne.
Parce qu'on mangeait du cygne autrefois au Moyen-Âge.
Alors, c'est vrai. L'une des recettes que je préfère, c'est l'œuf au plat qui répond au téléphone.
Mais alors, bon, ça c'est pour la petite histoire, mais on découvre surtout dans ce livre un Dali très militant de la tradition culinaire et de la bombance festive.
Et en fait, ça le raconte tout entier. Il faut lire la préface. Dali, il ne faut pas oublier que c'est un aristocrate. Hein. Un aristocrate catalan. Et pour pouvoir, comme ça, se départir des codes, c'est un grand classique. Il rend hommage au classicisme. C'est-à-dire que pour pouvoir effectivement bousculer la peinture, à la manière de Picasso, sont des gens qui connaissaient tous les classiques. Et dans la cuisine, il est un peu pareil. Il veut bien l'emporter par au-delà, mais à une condition, c'est qu'on en respecte les codes. Il a beaucoup d'audace, il a beaucoup d'avant-gardisme, et il maîtrise et respecte vraiment ses classiques. Et dans sa préface, il écrit ceci. « Si vous êtes un disciple de ces peseurs de calories qui transforment les joies d'un repas en punition », refermez immédiatement ce livre. Il est trop vivant, il est trop agressif et bien trop impertinent pour vous.
Incroyable.
J'adore.
Et ce qu'il y a de drôle, c'est que c'est un Catalan, il est du côté de Figueras, il faut avoir vu sa maison pour comprendre. Et quelques années plus tard, dans les années 90-2000, un autre chef, un anti-chef d'ailleurs, un certain Ferran Adrià, va lui aussi, à quelques kilomètres de là, à Cadaqués, révolutionner la cuisine. Non pas en faisant une cuisine d'avenir, mais une cuisine futuriste. Et alors, autant... Deux surréalistes de la cuisine, mais finalement assez loin l'un de l'autre. Dali, il respecte les classiques, c'est un aristocrate, c'est plus un païen, c'est plus un prolo quelque part, El Bouli, qui lui, Ferran Adrià, va se dire non, on peut bousculer les choses, on est libre. Bon, c'est la folie catalane, quoi.
Eh bien, merci, Emmanuel Rubin.
Est-ce que les recettes, du coup, tiennent quand même la route ?
Oui,
c'est des choses qu'on peut manger vraiment ou pas ?
Oui, alors, effectivement, quand vous faites la tarte au cygne et à la brosse à dents, bah, vous remplacez le cygne par, je ne sais pas moi, des cailles et du dentifrice, et puis ça ira très bien. Non, elles sont injouables.
Ah,
mais
c'est
techniquement,
ça, voilà.
Y a toujours un fondamental. C'est pour ça qu'il avait demandé à deux grands chefs de l'époque. Il voulait que toutes les techniques, tous les ingrédients, ça, ils s'en arrangeaient des ingrédients, mais les bases, la technique,
les bases fonctionnent. Oui.
Les bases fonctionnent.
D'accord.
Et c'est tout Dali, ça.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire. Toujours en compagnie d'Olivia Ruiz avec Pierre Auger en cuisine. Et une nouvelle invitée va nous rejoindre dans un instant. Perla Servaz-Chabert sera bientôt des nôtres. Qu'est-ce qu'on retrouve, tiens, à votre carte en ce moment à la maison du petit Pierre à Béziers, cher Pierre Auger ?
J'ai un souci, en fait, parce que moi, je n'ai pas de carte chez moi. J'ai deux menus, il s'appelle un, je fais ce que je veux, l'autre, il s'appelle tais-toi et laisse-moi faire.
Alors, dans tais-toi, laisse-moi
faire. En fait, j'ai toujours travaillé comme ça. La chance qu'on a, c'est qu'on a des producteurs derrière qui sont fantastiques. Et je me suis toujours dit, voilà, la richesse, c'est vraiment déjà d'avoir des produits, c'est déjà beau. Et de les respecter. Donc, il y a ça, on prend ça, il y a ça, on prend ça. Et avoir la chance de ce qu'on nous donne déjà. Donc, et c'est, ce qu'il y a, je ne sais même pas, en fait. Ça change tout le temps. Le petit gambas, la courgette à jette, c'est peut-être là, ça va arriver. La rouille de sèche, un peu modernisée, on fait ça avec un gnocchi de sèche, donc typé, mais voilà. Il y a toujours un traceur très méditerranéen, très marqué.
Il y a de la viande, il y a du poisson.
Ah, il y a de tout, par contre.
Il y a de tout, ouais,
il y a du végétarien, oui. Il y a même du vegan. C'est assez ouvert aussi à tout le monde, le but, c'est ça aussi, pour tout le monde. Et je dis souvent aussi, il n'y a pas écrit restaurant, il y a écrit maison. Oui. C'est la maison de Petit Pierre. C'est ouvert à tout le monde aussi par rapport aux tarifs.
Et plusieurs ambiances aussi dans la maison. Hein. Il y a une terrasse,
plusieurs ambiances. Après, la plus belle des ambiances, c'est que tu te sentes bien, quoi. Tu vois, tu te sens à la maison, donc après, chacun le vit comme il le veut. Mais bon, le meilleur traceur, c'est celui-là aujourd'hui. Ouais.
Bon, alors tais-toi, laisse-moi faire. Ce sera de la rouille de sèche aujourd'hui pour nous. Et on prend. Tiens, Olivier Ruiz, je voudrais qu'on dise quelques mots de votre spectacle Bouche Cousue. Quelques dates. Vous serez le 22 septembre à Châtel-Guyon, au mois d'octobre à Chassieux, à Sartrouville aussi en octobre, à Tremblay en France, et puis à Chartres. Belle tournée, là encore. Donc, j'imagine que ça vous nourrit aussi, ça, cette rencontre avec le public, en plus de celle que vous faites avec vos lecteurs.
C'est ça. Alors, en ce moment, justement, on tourne avec une lecture musicale très jolie, avec deux de mes musiciens qui sont aussi dans Bouche Cousue. Donc, c'est super, parce que même avec le livre, on arrive à garder ce lien avec la scène. Évidemment, on est sur une lecture musicale assez chantée, avec de petites encartades.
C'est ça.
Donc, voilà. C'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir garder toujours ce petit lien. Et à la rentrée, on repart avec Bouche Cousue, qui donc n'a rien à voir, avec une vraie scénographie, avec des procédés de tulle, mouvants, des projections, quelque chose de beaucoup plus travaillé.
Alors, Écoute la pluie tomber, c'est le roman. Bouche Cousue, c'est le spectacle. Et la musique, et un nouvel album en cours ?
Oui, je suis dessus. Je suis vraiment contente de ce qui est en train de naître là.
Des petits thèmes, des chansons, on peut déjà
dire.
Oui,
encore du franco-espagnol, beaucoup.
Vous reviendrez nous en parler alors.
Mais avec plaisir.
Hein, on aime bien vous avoir à table. Hein.
Oh, mais moi aussi, j'aime être à votre table, Laurent.
C'est l'heure d'accueillir une nouvelle invitée à table, justement. Lumineuse et inspirée, elle met de la joie en cuisine avec ses recettes. Elle a créé l'incontournable Psychologie Magazine avec son mari, Jean-Louis Servan-Schreiber. C'est vous dire si le bien-être est au centre de sa vie. Elle vient nous voir avec 30 recettes pour l'été. Bonjour, Perla Servan-Schreiber.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Je suis très contente de vous retrouver, contente de vous rencontrer contente de vous avoir entendu dans ce numéro exceptionnel.
Ah oui, il nous a bien parlé d'Ali, Emmanuel Rubin. Absolument, et ce n'est pas fini. Il va nous parler de quelqu'un de votre... On ne peut pas tout dire, mais de quelqu'un de votre famille peut-être tout à l'heure. Vous ne croyez pas si bien dire. Pas loin. Oui, mais on ne peut pas tout dire. Hein. Voilà, restez avec nous jusqu'à midi et demi. Olivia Ruiz, Perla Servan-Schreiber, c'est la première fois que vous vous rencontrez ?
Absolument.
Oui, c'est pas la première fois que je sais ce qu'elle fait.
Et réciproquement.
Mais voilà.
Et vous avez un sacré point commun. Hein.
Ah, on n'est pas très loin. Hein. Moi, je suis marocaine et vous, espagnole.
Absolument.
Alors, je pensais
pas
à ça.
On est des méditerranéennes.
Je pensais à l'amour des grandes tablées.
Ah.
Ah oui, alors ça, c'est toute ma vie est là.
Pareil.
Elle a commencé là et elle est là et j'espère qu'elle se finira là.
Alors, grande tablée, mais petit livre. Alors ça, c'est
hallucinant.
Drôle. Hallucinant, ce livre. Vous avez osé, Perla Servan-Schreiber.
Ah, oui.
On vous a déjà reçu le samedi à la table des bons vivants avec vos beaux livres de recettes. Et là, vous venez avec mes 30 recettes d'été parues aux éditions de La Martinière. Je le dis à nos auditeurs qui ont peur d'être encombrés parfois par les livres.
Ouais,
celui-ci pèse
pratique.
58 grammes. Magnifique, c'est vraiment le petit livre qu'on glisse dans sa poche, 30 recettes d'été.
Vraiment la poche. Hein.
Ah, bah oui, la poche du jean.
Ouais, des fois, des listes de poche, mon œil. Ouais.
C'est vraiment la poche.
C'est vraiment la poche. C'est venu de cette idée-là, de pouvoir le transporter facilement.
C'est de pouvoir le transporter et le tenir comme un téléphone portable dans la main. Parce que je me suis dit, c'est le geste que tout le monde a en permanence aujourd'hui. Et si ça plaît autant, si on s'est tellement habitué à cette chose qui nous accompagne partout... C'est qu'il faut aussi, peut-être, dans le domaine des livres, essayer de faire quelque chose qui se promène un peu partout avec nous.
Oui, c'est vrai, il doit être nomade et baladeur, le bouquin.
Il est nomade et baladeur, et on le met partout, dans sa poche, dans son panier pour aller au marché. On n'a pas besoin de faire des listes de courses. On regarde les ingrédients directement ici. Mais ça m'a demandé un travail de fou, parce que pour arriver à concentrer mes recettes en aussi peu de lignes, j'avoue que j'étais contente de l'avoir fait, parce que c'est possible.
D'où vous vient ce goût pour la cuisine, Perla Servan-Schreiber ?
Ben, ma mère était une très grande cuisinière et pâtissière. C'était en fait comme ça qu'elle a trouvé le moyen de se distinguer, parce qu'elle a été mariée à 14 ans, elle a eu son premier enfant à 15. C'était le destin que j'aurais dû avoir. Inutile de vous dire que j'ai pris mes jambes à mon cou à 14 ans et que je me suis barrée. Mais je l'ai vu faire. Et je l'ai vu faire avec une telle joie et recevoir tellement de gratification de tout le monde que c'était formidable. Et puis aussi, la table, grâce à elle, chez nous, nous étions une famille très modeste de 6 enfants, une très jolie famille, mais modeste. Et à table, on était riches.
C'est
on était riches aussi parce qu'il y avait beaucoup à manger, parce que ce n'était pas compliqué dans ces pays-là pour se nourrir convenablement. Mais à peu près, c'était à peu près tout ce qu'on faisait convenablement. Mais ça, c'était merveilleux. Et puis, on était joyeux.
Et les odeurs ont beaucoup compté dans vos souvenirs et dans vos mémoires de goût. J'ai le sentiment, quand vous parlez de fesses, vous parlez effectivement des odeurs de pain, c'est ça
Oui, le pain, la menthe, enfin, les choses qui étaient pour nous quotidiennes.
La fleur d'oranger, j'imagine.
Oui, la fleur d'oranger, ça, c'était quand même exceptionnel. Voilà, au moment où les orangers étaient en fleurs, et j'en ai gardé d'ailleurs... D'ailleurs, maintenant, je ne bois plus que du café blanc, comme disent les Libanais.
Un café libanais.
Ah oui, c'est bon.
C'est-à-dire de l'eau de fleurs d'oranger, une cuillerée dans un verre et de l'eau chaude.
Super. Il y a des vertus apaisantes, je trouve, dans
la fleur
d'oranger.
Mais bien sûr, on en donne aux enfants.
C'est formidable parce que, je ne sais pas, peut-être parce que j'ai vieilli, mais le café, une fois passé midi ou 13 heures, je ne le supporte plus. Ouais. Et donc, je ne bois plus que du café blanc.
Europe 1. La table du dimanche. Laurent Mariotte.
Merci d'être là depuis 11h, si c'est le cas. Et bienvenue, si vous venez d'arriver, Olivia Ruiz se met à table ce dimanche. Et Perla Servan-Schreiber nous a rejoint avec son joli livre de cuisine, Mes 30 recettes d'été, aux éditions de La Martinière. Voilà pour les nourritures terrestres et puis pour les nourritures spirituelles. Écoute la pluie tombée, le deuxième roman d'Olivia Ruiz paru chez Lattès. Et en cuisine, c'est le chef Pierre Auger, venu tout droit de Béziers, qui dresse une belle sèche à la rouille. Alors là, on est vraiment dans le produit de saison et dans le mollusque du moment, en plus.
Exactement.
Ça sent tellement bon.
C'est vrai que ça sent bon. On parlait des odeurs de pain dans votre ville natale de Fès, au Maroc. Et là, ça sent bon aussi. Perla, vous êtes venue nous voir avec ces 30 recettes d'été qui vous racontent d'une certaine manière. Alors encore une fois, vous jouez avec les mots et avec les ingrédients. Il y a un gaspachiche. Ça sent le gaspacho de pois chiche.
J'adore ce mot. Et puis, je rêve de faire une BD avec un personnage qui s'appellerait gaspachiche. Je trouve ça formidable.
Un joli nom.
Alors, c'est quoi ? Ben, c'est juste une variante du gaspacho. Parce que quand même, quand au 14e jour de vacances, on est déjà saturé de gazpacho, j'avoue.
D'origine espagnole, c'est andalou.
Il y a la salmoreja, il y a des variantes.
C'est ça, il y a des variantes. Alors moi, j'ai eu envie d'essayer quelque chose qui serait toujours cru, mais qui ne comporterait ni poivrons, ni des choses dedans, que tout est blindé. Ça prend 3 minutes, 4 minutes à faire. Avec un mélange, bien sûr, de tomates, de céleri.
Quand vous dites que c'est blindé, ce n'est pas renforcé en fer, c'est passé au blender.
Au blender, oui, c'est ça.
Pardon. Les doubles blindés.
Oui, c'est ça. Au blender, dans lequel on met du céleri, de l'ail et une poignée de pois chiches qui donne un velouté que j'aime énormément.
Qu'est-ce que vous aimez cuisiner l'été, vous, tiens, Olivia Ruiz?
Pareil, gazpacho, grillade, on fait en général très simple. On essaye d'être créatif sur les salades, avec plein de graines, avec...
Pain con tomate,
et ça, c'est pas que l'été, c'est toute l'année, bien sûr.
Racontez, il y a une belle histoire avec votre fils autour du pain con tomate.
Bon, mon fils est un gourmet. À 6 ans et demi, je lui fais des cookies, puis il me répond... Oh, ce matin, j'avais envie de pain cantomaté. C'est pas courant pour un petit Parisien de 4 ans de demander du pain grillé frotté à l'ail avec de la tomate et un peu d'huile d'olive, voire un peu de fleur de sel au petit-déj. Oui. Mais il m'en fait beaucoup des comme ça. Dès qu'on arrive dans mon village à Marseillette, il fait son menu. Et c'est pas l'enfant qui va demander des coquillettes au jambon, quoi. Non. Il veut les pâtes au pesto. Il regarde s'il y a du basilic dans le jardin. S'il y en a, il va demander à mon père les pâtes au pesto, mais les vraies. Et ensuite, il demande toujours un aioli. Ah.
Alors, dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es, disait le gastronome Bria Savarin. Eh bien, tiens, on va voir si cette formule s'applique toujours. Je vais vous cuisiner toutes les deux, Perla Servan-Schreiber et Olivia Ruiz, et vous répondez spontanément, tiens. Allez. Le plat qui vous réconforte à coup sûr, Perla.
Ça dépend des moments, mais en ce moment... En ce moment, c'est le croque-monsieur.
Ah, c'est vrai que c'est réconfortant, ça. Oui.
Oh là je sais pas pourquoi.
Béchamel ou pas béchamel
mangé, pas béchamel. J'ai pas mangé de croque-monsieur pendant 40 ans. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, c'est le croque-monsieur. Voilà.
Et vous, Olivia ?
Je pensais à quelque chose que j'appelle la soupe à l'œuf, mais qui n'a pas de nom. Vous voyez, les soupes alphabet, oui. Où on met un bouillon de légumes ou deux, voilà, ou vermicelle. Et moi, ce que je fais, c'est que c'est vraiment le plat du dimanche soir quand on est à la bourre et qu'il faut se coucher vite. Je casse un œuf dedans, je remue à toute vitesse, comme ça, ça fait des espèces de filaments à l'intérieur. Et ensuite, une bonne tonne de comté ou des mentales râpées. Voilà. Et par contre, voilà, pour histoire de rendre le truc un peu plus santé, juste une carotte coupée en petits bouts ou un poireau coupé en petits bouts dans le bouillon avec le petit cube...
C'est
de
bien.
Bouillon.
On prend ça.
Et voilà, ça prend délicieux. Pareil, 2 minutes.
Délicieux.
Et tout ce qu'on aime.
Délicieux.
Eh ben voilà, oui,
délicieux.
On en apprend des choses.
Hein, c'est quand même formidable.
Grâce à la cuisine. Alors maintenant, on va passer à table avec Pierre Auger qui va nous servir cette belle rouille de sèche et vous allez nous raconter les grandes étapes pour que nos auditeurs puissent refaire cette recette à la maison. C'est magnifique et ça sent bon,
couleurs.
Effectivement.
Ah là, les
couleurs. Oh là là. Perla et Olivia ont sorti leur portable. Vous retrouverez ces photos sur leur Instagram et vous les retrouverez évidemment sur europe1.fr. Racontez-nous, Pierre, les grandes étapes pour réussir ce plat qui est effectivement coloré, chaleureux et parfumé. Ça vous ressemble ?
Ben, les grandes étapes, j'allais dire, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, c'est la cuisine, c'est du sentiment. C'est faire du plaisir, donner envie, prendre du plaisir et en donner. Et là, aujourd'hui, ben, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, cette petite rouille. Je l'ai taillée plus petite pour qu'elle cuise plus rapidement, bien sûr. C'est un petit oignon revenu, mais bien accroché, presque un peu brûlé. Moi, j'aime
ce côté
caramélisé.
Caramélisé.
Merci.
La sèche taillée fraîche, taillée en petits dés, revenu. Et je déglace avec des tomates fraîches en petits dés également. Et ça compote tout doucement comme ça. Et on finit avec une belle persillade, un peu de thym, voilà. Et autour, une petite rouille, un jus de persil et un jus d'un rôti. J'aime bien ce côté gras, en fait, qui vient réconforter.
C'est rien, quoi.
C'est en gros, oui, parce que là, je l'amène comme ça, mais bon, parce que je la présente un peu chouette, mais...
Combien de temps de cuisson, Pierre ?
Là, il y a 40 minutes de cuisson, voilà, c'est bien. Ouais. Il faut pas moins, quoi.
Faut pas moins, faut que ça compote, quand même.
Et alors, comment on fait pour que la sèche, elle devienne pas un peu caoutchouc et machin ? C'est la tomate qui fait que...
Non, il faut que ça compote tout doucement. Et après, il faut le sentir. Après, là, pour moi, là, la sèche, il faut qu'elle soit fondante, mais avec un petit peu une résistance derrière.
Elle
dente. Ouais, exactement. C'est comme les pâtes, ça.
C'est délicieux.
Et la sèche dessus, un petit lamelle sauté comme ça, mais ça prend 30 secondes.
Ça marche avec des calamars aussi, ça marche avec des encornets. On en parlait il n'y a pas longtemps, des cousins de la sèche. Perla Servan-Schreiber, alors.
C'est 30 secondes et 30 ans de boulot, quoi. Mais à part ça, là-bas.
30 ans d'élaboration.
Tiens, à propos de 30 ans de boulot, je voudrais qu'on parle un petit peu d'amour, parce que la passion amoureuse est au centre de votre vie, Perla Servan-Schreiber. Hein, vous avez vécu plus de 30 ans avec Jean-Louis, qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant. C'est quoi pour vous le secret d'un couple qui dure, pour avoir cette belle longévité ?
C'est d'aimer l'autre tel qu'il est, et de s'en réjouir.
Et de ne pas s'endormir fâché.
Les trucs qui vous agacent au tout début... Le jour où on commence à en rire, on est bon. Là, on est parti pour la vie.
Ou on est épuisé, peut-être aussi.
Là, on est parti pour la vie, là.
Non, mais c'est ça. Il faut du détachement et un petit peu de discernement aussi, en fait. Aussi.
Je sais pas. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà.
Vous avez déclaré, alors ça m'a frappé, Perla Servan-Schreiber, qu'une vraie rencontre vous transforme profondément, pas parce que l'autre tente de vous changer, mais parce que vous devenez par vous-même une nouvelle personne.
Je pense qu'il y a dans la vraie rencontre amoureuse une chimie très particulière et qui n'a rien à voir avec le fait que vous avez que l'autre souhaiterait que vous deveniez un peu plus ceci, un peu moins cela, et vous-même non plus, vous n'y avez pas pensé, mais vous observez qu'il y a une chimie qui vous transforme. Et cette transformation, elle va véritablement vous permettre, aux deux, hein, bien sûr, aux deux, de vivre cette aventure qui, en soi, est non seulement la plus humaine, parce qu'elle est la plus folle, mais qui dure, et c'est dans la durée que l'on ressent les choses les plus puissantes qui soient.
Alors, avec Jean-Louis Servan-Schreiber, vous avez fondé Psychologie Magazine, qui est un numéro de presse incontournable et qui connaît toujours un succès incroyable. Quel effet ça vous fait de voir le succès de ce magazine encore plus de 20 ans après ?
Écoutez, je ne sais pas, plus de 20 ans après, je me réjouis pour ceux qui le font, hein, mais c'est vrai que moi, quand j'ai fermé une porte, j'ai fermé une porte et puis je passe à autre chose, mais je suis ravie.
Vous faites des livres
l'équipe.
De cuisine aujourd'hui, absolument.
Je fais des livres de cuisine et des essais et voilà, je fais des tas de choses. Mais nous avons été par contre, nous, Jean-Louis et moi, totalement surpris par le succès dès le premier numéro. On ne s'y attendait absolument pas. Ça a été un cadeau. On n'y a pas imaginé qu'un magazine qui s'appellerait Psychologie à l'époque où quand même on pensait que c'était pour des gens malades, hein, c'était quand même encore ça la psychologie,
oui,
en 98,
vrai,
hein, oui. C'était très mal compris et on était persuadé que c'était pour des gens qui avaient vraiment besoin de se soigner. Et qu'il soit devenu un magazine grand public à plus de 380 000 exemplaires, c'était véritablement que la société était prête aussi pour ça, mais encore fallait-il en avoir l'intuition, et l'intuition, c'est Jean-Louis qui l'a eu, c'est pas moi.
Et aujourd'hui, vous continuez à délivrer ces petites notions de bien-être et de plaisir à travers vos livres de cuisine, parce qu'on vous voit, là, vous êtes tout de blanc vêtu, vous êtes radieuse, lumineuse, et on retrouve ça dans vos livres de cuisine, Perla Servan-Schreiber. C'est ça qui me touche chez vous, en fait, c'est que votre cuisine, dès qu'on ouvre le livre, elle donne envie de se mettre au fourneau et de se mettre à table avec un sentiment de joie. Hein, vous le dites souvent, ça.
Ouais. Moi, je dis, voilà, je peux manipuler les épices comme toutes les personnes qui sont nées voilà, au Maroc, comme moi et dans d'autres pays, mais que moi, mon ingrédient principal et favori de ma cuisine, c'est la joie.
Eh bien, de la joie. Eh bien, on reste avec de la joie. Hein,
c'est tellement joli.
Ça vous va, la joie, Olivier Ruiz ?
Ça me va.
Hein, vous aussi, elle vous habite, la joie. Et Pierre Auger aussi, dans sa maison du Petit Pierre.
Exactement.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Dernière partie de la table du dimanche avec deux invités, hein, qui font connaissance comme on le ferait à la maison. Perla Servan-Schreiber d'un côté, Olivia Ruiz de l'autre. Perla est venue avec ses 30 recettes d'été parues aux éditions de La Martinière. Et Olivia nous présente son deuxième roman, Écoute la pluie tombée. Vous aimez bien écouter la pluie tombée pour de vrai ? C'est paru chez Lattès.
Pas spécialement, non, je vous avoue.
J'adore.
Je préfère regarder le soleil briller, mais non. Effectivement.
Moi, je suis le seul. Vous
c'est normal,
vous tous
il,
comme
est,
un
il est lorrain, lui.
Non, mais voilà.
Dans
non.
Le sud, on ne les entend pas la pluie, mais les lorrains.
Il fait plutôt beau en Lorraine, oui. Quand même. C'est vachement ensoleillé. Ah.
Perla Servan-Schreiber, tiens, quel est votre plat du dimanche favori qui a marqué votre enfance ou
Je n'ai pas de plat
années.
Du dimanche parce que je n'ai pas de tradition du dimanche dans la famille ni à la maison. Et qu'est-ce que j'aime comme plat favori ? Alors, si je pense à la demande de mes petits-enfants qui commencent à avoir quand même 31 ans, eh bien, c'est un plat que j'ai inventé pour eux et qu'on a appelé pour eux la poule aux pâtes.
Génial.
Elle aime bien jouer avec les mots aussi. Hein.
Et comme ça, la dandelle.
Cette poule aux pâtes, c'est une chose très simple que ma grand-mère faisait, mais que j'ai voilà, un peu quand même, je ne sais pas améliorée, mais un peu changée en tout cas. Et c'est un bouillon de poulet que moi, je fais uniquement avec des ailes, parce que le bouillon des ailes, évidemment, ce n'est pas vous que je vais le dire, est quand même le plus savoureux, parce qu'il est à la fois un peu gras et gélatineux. Et une fois qu'on a fait ce bouillon, dans le bouillon, mais en respectant des proportions très précises entre la quantité de bouillon et la quantité de pâte à cuire, je jette des fettuccini très fins et je les jette. Et là, le jeu consiste à ce qu'en 3 minutes, les pâtes aient absorbé la totalité du bouillon.
Ça part bien,
et on
ça,
le sert immédiatement et c'est tout. Et c'est absolument exquis.
On la retrouve mais dans un de vos livres déjà, cette
non,
recette.
J'ai interdiction formelle de publier, mes petits-enfants m'interdisent de publier cette recette.
C'est vrai.
C'est la vraie recette de famille, on ne veut pas qu'elle sorte de la famille, c'est génial. Ah oui, c'est une belle histoire.
C'est celle qu'il n'y aura pas dans les livres.
Vous avez dit une très belle phrase à propos de la cuisine, Perla Servan-Schreiber. Vous avez dit « la cuisine, c'est penser ce qu'on va manger et non pas manger ce qu'on trouve ».
Oui, c'est vrai. Moi je suis une grande militante de l'anticipation. J'avoue que personnellement, autant j'adore faire la cuisine de placard, si je puis dire. C'est vraiment à la dernière minute, voir ce dont on dispose et puis faire quelque chose. Mais l'anticipation, pour moi, est déjà le fait de penser pour qui je vais faire et qu'est-ce que je vais faire le soir. C'est déjà pour moi une manière de commencer à me mettre mon tablier, vous voyez, c'est un peu...
Préliminaire.
Voilà. Et j'aime énormément ce petit moment où j'ai réfléchi un peu avant de m'y mettre le soir.
Ouais. Vous aimez faire le marché, Olivia Ruiz ?
J'adore, mais j'ai franchement très peu le temps de le faire. Moi, le week-end, je travaille, c'est le principe des chanteurs. Quand
c'est
même.
Oui, c'est
donc,
vrai.
Non, pas trop. Mais c'est vrai que je me rends tant de fois compte que je suis en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir, en train d'écrire, et je suis en train de me faire le menu pour le soir, pour mon petit garçon. Et c'est vrai que ça fait partie de l'engagement. Moi, quand je me dis, punaise, ça craint, je suis en train de faire un truc qui n'a rien à voir, j'ai un monsieur qui me parle en face, et moi, je suis en train de calculer ce que je vais faire à manger, je me dis, voilà, je suis dans mon rôle, je suis engagée.
Pour moi, chaque jour, vraiment, c'est un rendez-vous d'amour.
Et
je m'y prépare. Je ne fais pas mon shampoing 3 minutes avant d'aller voir mon amoureux. J'essaye de le faire un petit peu avant. Quand même.
Alors tiens, Perla Servan-Schreiber vous a rappelé, cher Emmanuel Rubin, un autre membre de cette grande famille, lui aussi homme de presse et lui aussi gastronome, mais un membre qui n'a pas... C'est pas Vincent Fergniaud, mais c'est, vous
non,
allez voir, c'est pas loin.
C'est le papa de Vincent Fergniaud. Je vais vous parler effectivement de Jean Fergniaud qui a 3 points communs avec vous. Il fait partie de la famille Servan-Schreiber, mais en tant que pièce rapportée. Il était le mari de Christiane Servan-Schreiber, alias Christiane Collange, qui eut son
écrivain.
Heure de gloire en tant qu'écrivain. C'est ensuite un grand homme de presse, un grand journaliste. Et puis, il avait un amour de la chose gastronomique. Alors, vraiment un grand bonhomme de presse. Il fait la Seconde Guerre mondiale. Croix de guerre 39-45, et puis immédiatement après, il devient homme de presse. Il va être un grand chroniqueur. Il travaillera d'ailleurs dans un titre des Servan-Schreiber qui est l'Express. Et on dit que De Gaulle le considérait comme le meilleur chroniqueur de France et que à la fin des années 60, à 8h15, lorsqu'il faisait sa chronique sur une chaîne concurrente et grande chaîne, on peut la nommer CRTL, eh bien De Gaulle arrêtait tout pour écouter Jean Fergniaud.
C'est beau ça. Et la gastronomie, alors pourquoi cette place chez ce monsieur déjà bien occupé ?
Alors, à ses heures gagnées et pas à ses heures perdues, effectivement, il a beaucoup œuvré pour la chose gastronomique. Et moi, je pense qu'il œuvrait pour la chose gastronomique parce que c'était un numéro de la France. C'était aussi un écrivain, 30 titres à son compteur, un prix interallié, et beaucoup de titres dédiés à la France, et notamment à la France de ses terroirs et à la France de sa culture. Et il exprimait, je pense, que la gastronomie, la cuisine, est véritablement une grande expression culturelle de la France. Et c'est vrai, un sacré bonhomme. Il faut oublier qu'il a été le fils spirituel de Curmoncier, puisqu'il était pendant plus de 10 ans le directeur de la rédaction d'un autre mensuel culte, qui est Cuisine et Vins de France.
Il serait à l'origine, Jean Fergniaud, du fameux classement du repas des Français au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, on l'oublie, franchement.
Alors ça, oui, parce que pour avoir écrit un ouvrage sur... la gastronomie française et ses coulisses. J'avais enquêté sur le classement du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO en 2015. Mais en fait, on a totalement oublié qu'en 25 ans plus tôt, en 1985, Jean Fergniaud remet un rapport très officiel. Et ce rapport, il le remet au ministère de la Culture et de l'Agriculture. On l'appelle d'ailleurs le rapport Fergniaud. C'est 35 pages. Et il a un coup de génie. C'est que plutôt que de parler de nos terroirs, de nos vins, de notre cuisine, il dit le génie français, c'est ce repas. C'est ce repas ordonnancé, orchestré, comme dans nul autre pays. Et tout son rapport va parler de ce repas gastronomique des Français. 25 ans plus tard, lorsqu'on va essayer de présenter à l'UNESCO notre classement, eh bien, en fait, on va s'appuyer sur ce rapport Et malheureusement, beaucoup de gens ont oublié de le citer. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est invisibilisé. Je voulais juste lui rendre hommage. Il faut lire ce rapport. Et en fait, si notre classement et notre repas gastronomique est classé, c'est grâce à un certain Jean Fergniaud.
Eh ben, vous avez bien fait, qui est le papa de Vincent Fergniaud, qu'on peut retrouver sur Public Sénat avec Manger, c'est voter, qui est une très bonne émission créée par Perico Legas aussi. Nos auditeurs le réclament et le demandent. Le coup de cœur de nos invités. Je commence par vous, Olivia Ruiz. Un coup de cœur pour nos invités. Ça peut être un spectacle, un livre, un film.
Alors moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour, l'album de November Ultra. Une jeune femme qui doit avoir des origines espagnoles, peut-être aussi italienne, j'en sais rien. Je l'ai vue en concert au printemps de Bourges et j'ai pris une énorme claque.
Perla Servan-Schreiber, un coup de cœur pour nos auditeurs.
Depuis que Jean-Louis n'est plus là, je ne sais pourquoi, je trouve tout ce qui est important en termes vraiment de consolation et d'élévation dans la lecture de la poésie. Et vient de sortir chez Poésis une magnifique anthologie de la poésie. Alors évidemment, ça fait peur un peu quand on le dit comme ça. Mais il y a à la fois des poésies merveilleuses et puis quelques mots sur le poète qui permettent au moins de rentrer, vous voyez, avec une... Déjà, on donne sa propre main au poète avant de commencer à le lire. Et c'est délicieux. Et j'ai une tradition, voilà, avec une amie, on s'envoie tous les matins un poème.
Ah, c'est beau.
C'est joli.
Et ben voilà, de la poésie et de la chanson, et puis de la gourmandise, et une belle régalade grâce à vous, Pierre-Auger. Merci infiniment pour ce beau déjeuner du dimanche. On peut poursuivre ce plaisir en allant vous voir à Béziers, la maison de Petit Pierre. À Béziers, c'est votre restaurant que vous tenez avec votre chère et tendre, et on peut déguster cette belle cuisine made in Occitanie. Merci, Pierre-Auger, d'être venu.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci.
Salut Emmanuel Rubin, à la semaine prochaine et à bientôt dans
le
Figaro.
Je vais aller prendre le soleil à Nancy.